Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Une émission spéciale européenne aujourd'hui à 5 semaines du scrutin avec 2 invités. Dans la seconde partie, nous recevrons Benoît, mon chef de file de génération. Et dans cette première partie, c'est donc vous, Nicolas Dupont-Aignan, qui êtes notre invité. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour,
bonjour
Marion,
Benjamin.
Bienvenue.
Bonjour,
et Adrien Gindre de TF1
bonjour à tous.
LCI.
Bonjour Adrien Gindre.
Et comme d'habitude, cette émission est interactive. Vous pouvez bien sûr réagir et laisser vos commentaires en direct sur nos réseaux sociaux, RTL.fr notamment. Hashtag Le Grand Jury. Et c'est Marie-Pierre Haddad qui les relaiera aux invités à chaque fin de demi-heure. Alors dans cette première partie, bien évidemment, au début de cette émission, nous allons évoquer avec vous, Nicolas Dupont-Aignan, bien la journée d'hier, hein, celle des Gilets jaunes, un nouvel acte, l'acte 23. Et la première question vous est posée par Marion Mourgue.
Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous pouvez encore soutenir ce mouvement des Gilets jaunes quand on a entendu hier crier « Suicidez-vous » aux policiers, alors que ça intervient juste après une vague de suicides importante dans la police ?
Nicolas Dupont-Aignan.
D'abord, permettez-moi de souhaiter un bon dimanche de Pâques à tous ceux qui nous écoutent, surtout après ce qui vient de se passer au Sri Lanka et la persécution des chrétiens dans le monde. Mais comment pouvez-vous imaginer un instant que je sois solidaire de paroles abjectes qui ont eu lieu à Paris hier et que je puisse mêler les gilets jaunes de départ, qui étaient des citoyens tout simplement qui voulaient la dignité de leur travail, des retraités, des Français, des millions de Français qui veulent simplement que leur pays aille mieux. Et Benjamin Cauchy, qui est d'ailleurs ici et qui est sur notre liste, les a représentés. Bien évidemment, cela n'a rien à voir avec ces scènes abjectes qu'on a vues hier à Paris, qui n'ont rien à voir.
Mais comment
il faut arrêter de mêler, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des anarchistes, une extrême gauche, des dingues qui ont récupéré une fin de ce mouvement à Paris, mais qui n'a rien à voir avec les millions de Français qui veulent simplement de la dignité et de la justice. J'étais vendredi sur le site d'Arjo Wiggins, qui est une entreprise de papeterie qui ferme, 600 salariés sur le carreau, qui ferme alors qu'elle est en parfait état, qu'elle est victime de la rapacité financière, que la production de papier recyclé, la dernière en France, va partir dans un pays d'Europe. Bref, vous savez, le mouvement social qu'il y a dans notre pays, c'est la volonté de revoir les règles du jeu pour qu'on puisse travailler.
On va en parler.
Et qu'on puisse vivre de son travail. Maintenant, il y a suffisamment.
Après la journée d'hier.
Il y a suffisamment de drames en ce moment pour pas s'apesantir sur des dingues. Et je veux donner mon soutien total aux forces de l'ordre qui n'en peuvent plus et qui attendent du président de la République maintenant des annonces claires pour savoir où il mène le pays et comment on règle à la racine les problèmes du pays.
On va en parler, Nicolas Dupont-Aignan. Mais est-ce que vous dites aux Gilets jaunes aujourd'hui, il suffit, les manifestations, il y en a eu dans notre pays, ou est-ce que vous comprenez qu'ils manifestent à nouveau le 1er mai, nous dit-on, avec un grand mouvement qui pourrait à nouveau être émaillé de violence ?
Gilets jaunes, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Quel gilet jaune ? Si c'est la retraitée ou l'artisan ou le travailleur de province qui est sur un rond-point et qui va pacifiquement à la rencontre des Français, je comprends son mouvement. Si ce sont des dingues qui violentent et qui insultent les policiers, je ne serai jamais de leur côté et je ne l'ai jamais été. Maintenant, arrêtons les manipulations. Je crois que l'enjeu, c'est de régler les problèmes des Français. C'est l'enjeu d'ailleurs des Européennes. Et c'est de réconcilier les Français. Et en ce week-end pascal, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur au lieu de voir toujours le petit bout de la lorgnette.
Adrien Jean.
L'actualité de cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan, c'était aussi cet incendie à Notre-Dame. Et les deux actualités sont rencontrées, ce que Jérôme Rodriguez, Gilet jaune, a expliqué, regretté que le président décale ses annonces pour, je cite, un malheureux incendie dans une cathédrale. D'ailleurs, il y voit une stratégie gouvernementale. Est-ce que vous partagez ça ?
Mais bien évidemment que non. Il faut arrêter de... Écoutez, il faut arrêter de mettre en valeur ceux qui ont des paroles excessives. Il faut peut-être écouter les Français. D'abord, moi, je veux dire que cet incendie de Notre-Dame a été une tragédie pour le pays et, dans le même moment, a montré l'attachement des Français à une civilisation. Et moi, j'ai été aux abords de Notre-Dame le soir, dans la nuit et le matin, et ce que j'ai vu m'a réconforté, dans un sens, sur l'unité nationale. c'est-à-dire de voir des Français de toutes origines, des Français qui pleuraient cette cathédrale parce que tout à coup, quand l'essentiel part en fumée, on s'aperçoit qu'est-ce que ça veut dire être français.
Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti parle de récupération politicienne indécente. Vous ne le rejoignez donc pas. Éric Ciotti, dans le journal du dimanche aujourd'hui, dit qu'il y a de la part du président de la République une récupération politicienne indécente
Français,
à repousser de 10 jours les annonces
Les Français,
après l'incendie.
Attendez. Les Français ne sont pas dupes de quoi que ce soit. Moi, ce que je dis tout simplement, c'est que le président de la République a été dans son rôle. Et c'est normal. Et je suis suffisamment critique du président et de sa politique terrible pour les Français pour reconnaître qu'il a fait son devoir. En revanche, et je le dis très clairement, il y a deux choses qui m'ont choqué. C'est que le seul fait que je pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et suscité autant d'indignation de la petite classe politico-médiatique française. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de se poser la question de savoir si c'était un acte de malveillance, un accident ou un attentat.
Est-ce que vous
Premier
comprenez
point.
Que cette question ait pu choquer?
Non, elle n'a rien de choquant et je suis révolté, révolté que dans une démocratie comme la France, on en soit à ce point de pensée unique et d'incapacité à poser les questions et à parler librement.
Mais est-ce que vous n'aviez pas le doute, Nicolas Dupont-Aignan?
Parce qu'il y a un doute. Et je le dis.
Encore aujourd'hui.
Et tous les Français pensent qu'il y a un doute.
Pour
et
vous,
pour une raison très simple. Raison très simple, c'est que j'écoute le procureur de Paris qui a très clairement dit qu'il fallait une longue enquête. Et quand dans un pays comme le nôtre, il y a plus de 1000 incidents ou accidents ou actes de malveillance anti-chrétiens qui sont cachés, et qu'il y a un terrible incendie, c'est quand même le devoir d'un homme politique de poser une
Donc
question.
Donc vous persistez, Nicolas Dupont-Aignan, vous y voyez de la christianophobie. Est-ce que c'est un, pour vous,
non,
ça peut être un acte
ça.
Qu'est-ce que
j'ai dit.
Vous dites aujourd'hui.
J'ai dit que dans notre pays, la christianophobie est cachée volontairement, qu'elle est masquée et que ce n'est jamais bon de masquer un phénomène.
Cachée par qui?
Si c'était une mosquée ou une synagogue, il y aurait immédiatement une émotion. La christianophobie qui arrive tous les jours en France, 1000 actes en 2018, est cachée. Je trouve ça dommage parce que je crois qu'on ne lutte bien contre un phénomène que quand on l'affronte.
Mais qui nous cache des choses, Nicolas Dupont-Aignan ? Qui nous cache des choses ? Est-ce que c'est le gouvernement nous cache des choses ?
Un état d'esprit ambiant où on n'a pas le droit de dire les choses. Et je finis mon propos. Et je pense que j'étais dans mon rôle, et c'est d'ailleurs triste, d'avoir été le seul homme politique qui ose poser la question et qui s'interroge, comme des millions de Français, sur cette précipitation de l'ensemble des chaînes d'infos d'ailleurs en passant, à dire c'est pas un attentat, c'est pas un acte de malveillance. Le procureur de la République, dans la même phrase, a dit ce n'est sûrement pas un acte de malveillance ni un attentat. Et 20 secondes après, il dit il faudra une enquête très longue pour savoir ce qui s'est passé. Je n'ai jamais dit que c'était un attentat, je n'ai jamais dit que c'était un acte de malveillance, je n'ai jamais dit que c'était un accident.
Comment l'incendie a été déclenché?
Mais je trouve...
Christophe Castaner dit que vous n'êtes pas responsable politique quand on se complaît dans le complotisme.
Mais...
À votre rencontre.
Ah bon, poser une question en démocratie, c'est être complotiste? Alors cela veut dire que dans notre pays, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'interroger, on ne peut plus avoir la vérité, on doit épouser un totalitarisme de la pensée permanent. Et on n'est plus dans notre rôle, on n'est plus en démocratie. Si nous étions dans un autre pays, en démocratie, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, je peux vous dire qu'il y aurait eu des questions de poser. Comme il y aurait eu des questions sur la responsabilité.
Mais alors, qui serait à l'origine
sur
de
la responsabilité.
Vous avez
et j'attends l'enquête.
Vous avez
et j'aimerais qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur. Parce que ça peut être utile pour la suite.
Vous réclamez une commission d'enquête parlementaire.
Une commission d'enquête parlementaire sur l'entretien de nos monuments historiques. Car là aussi, il y a eu un très bon article dans votre journal, d'ailleurs, madame, de M. Perrault.
Le Figaro.
Oui. Très bon article de M. Perrault, qui disait « La France est le seul pays où on est irresponsable. Personne n'est jamais responsable de rien. » Eh bien, je suis désolé, si la cathédrale qui a survécu aux révolutions, aux guerres mondiales, est partie en fumée au XXIe siècle cette année... C'est bien parce qu'il y a eu des défaillances.
Mais Nicolas Dupont,
et je souhaite
attendez,
que ces défaillances soient explicitées.
Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité à appeler à l'unité nationale et en même temps instiller le
mais
doute
l'unité nationale.
Sur la possibilité qu'il y ait eu un attentat?
Mais
ça veut dire que vous désignez et stigmatisez éventuellement.
Ah, je stigmatise qui?
Justement, on s'interroge.
Eh bien, moi, je vous dis que l'unité nationale repose sur la confiance, la transparence, le respect de la démocratie et des questions. Et je trouve insensé, que celui qui pose une question soit accusé, alors que ceux qui gouvernent et ceux qui ont laissé ce désastre devraient quand même s'interroger sur leurs responsabilités. Dernier point, et on en finira peut-être avec ce sujet grave, je trouve là aussi un manque d'humilité et une mégalomanie du président de la République à vouloir faire un geste architectural contemporain sur une cathédrale qui nous a été léguée par 1000 ans d'histoire. Je trouve ça d'une prétention. C'est une deuxième mutilation. Et j'ai lancé avec Debout la France une très vaste pétition qui a un succès incroyable. Parce que les Français sont attachés à leur cathédrale et veulent que cette cathédrale soit reconstruite à l'identique. C'est très important. C'est le moindre des respects vis-à-vis de tous ces artisans qui d'ailleurs, et je propose aussi, parce qu'il faut que ce drame soit utile pour la suite, je propose qu'il y ait un grand plan en France de rénovation de nos églises, de nos monuments historiques. Et je pense que c'est l'occasion de former des jeunes, les compagnons du devoir, des artisans. Et on n'a pas besoin d'un concours international d'architecture pour avoir une espèce de vedette.
Mais vous croyez l'objectif de 5 ans affiché par le président de la République pour la reconstruction ?
Le président a raison sur un point. Je vais vous dire une chose. Autant je critique sa mégalomanie de vouloir imposer une flèche moderne sur Notre-Dame, autant il a raison de dire qu'il faut aller vite. En revanche, 5 ans me paraît très excessif. Si dans 10 ans, on peut revoir Notre-Dame avec sa flèche de Viollet-le-Duc, ce sera un grand jour de bonheur. Et en tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on arrête l'hérésie complète de vouloir modifier ce bâtiment. Il appartient à tous les Français, c'est l'histoire de la France. Et je souhaite qu'il y ait la vérité de fait, pas pour désigner quiconque, pour que ça ne recommence pas dans un autre monument historique, une autre cathédrale.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il y a les bons dons et les mauvais dons avec ceux des milliardaires ?
Écoutez, il faut arrêter tout ça. Tout ce qui permettra de reconstruire la cathédrale, ça positif. Le seul point que je comprends, c'est que beaucoup de Français se sont dit justement, c'est formidable tout cet argent qui arrive, mais s'il pouvait arriver aussi pour les plus modestes d'entre nous, ce serait bien. Et c'est pourquoi je propose aussi, parce qu'il faut être concret, il faut des propositions, il ne faut pas être dans la critique, je propose que la décision du gouvernement de défiscalisation jusqu'à 1 000 euros, 75%, soit étendue aussi à toutes les associations caritatives, parce qu'aujourd'hui, il y a un plafond de 500 euros. Et je pense que cet événement tragique a montré qu'il y avait beaucoup de générosité dans le pays. Et cette générosité, j'aimerais aussi qu'elle se manifeste pour les plus faibles des Français.
Alors, les annonces du président de la République ont donc été reportées. Hein, les annonces en réponse aux Gilets jaunes ont donc été reportées en raison de cet incendie. Mais ils ont fuité, dans certaines manières, notamment sur RTL, où nous avons annoncé Marion Mourgue.
Est-ce que quand vous voyez ce que le président aurait pu annoncer, vous lui accordez un satisfecit, notamment sur la baisse des impôts pour les classes moyennes ou la non-fermeture d'écoles et d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat ?
Ça, c'est la propagande. La réalité, elle est tout autre. Ce sont des demi-mesures, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement. La réindexation des retraites n'est pas faite pour tous les retraités. Et il y a beaucoup de retraités
jusqu'à
2000 euros. Mais je vais vous dire une chose.
C'est ce que vous avez mis.
La réindexation totale des retraités et des prestations familiales. Je remarque que les prestations familiales sont oubliées et que toutes les familles de France, ceux qui élèvent dur des enfants, c'est pas facile d'élever des enfants dans notre société, voient les prestations familiales pas réindexées. Deuxièmement, je voudrais le dire très clairement, la réindexation des retraites, le président de la République l'a fait passer pour un cadeau. Donc jusqu'à 2000 euros, mais le contrat moral de la répartition des retraites, du système de la répartition. C'est que quand on cotise, on s'assure que les générations suivantes paieront la retraite avec le niveau de l'inflation. Et donc, ce n'est pas un cadeau. Donc, je crois que toutes les retraites, toutes les prestations familiales doivent être indexées sur l'inflation. C'est la moindre des choses. Premier point. Deuxième point, c'est un plan qui est insuffisant, très nettement insuffisant, pour revaloriser le pouvoir d'achat des Français. Et il manque un élément clé. Ce sont les économies. Car si on veut vraiment relancer le pouvoir d'achat des Français et pas faire semblant comme il le fait, il faut faire des économies. Et à Debout la France, vous le reconnaîtrez, nous sommes le seul parti politique qui a chiffré 32 milliards d'économies très précises sur notamment la fraude sociale, la fraude fiscale, le coût de l'immigration et le coût de l'Union européenne.
Mais il y a un autre moyen d'y parvenir, Nicolas Dupont-Aignan.
Et attendez, je finis ma phrase. Ces économies permettraient un vrai plan de relance du pouvoir d'achat avec réindexation des retraites, des prestations familiales, c'est pas un cadeau, c'est juste préserver le pouvoir d'achat. Et puis surtout, baisse de CSG pour tous,
de manière de 3%, on l'a chiffré, 3% de manière à récompenser le travail. Car vous le savez, dans notre société, le
travail est davantage,
c'est qu'on ne récompense pas ceux qui travaillent.
Et bien vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, puisqu'il propose justement de travailler davantage. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Travailler davantage ?
Par exemple, la suppression d'un jour férié, par exemple, repousser l'âge légal de départ à la retraite. Il y a plein de pistes qui ont été lancées toutes ces dernières semaines.
Est-ce qu'on peut déjà récompenser le travail quand on travaille, qu'on soit payé dignement ? En baissant les dépenses publiques excessives. L'allongement de la durée de travail de la retraite, j'y suis totalement hostile, comme 80% des Français. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de boulot à partir de 50 ans. Et que quand on dit, je trouve ça extraordinaire, d'ailleurs je voyais un grand patron qui doit gagner des dizaines de millions, qui dit, il faut travailler plus. Mais c'est le même qui licencie à 55 ans.
Et alors supprime
le donc, je veux dire très clairement, parce qu'il faut que les Français sachent de quoi il s'agit. Quand on leur dit, on va allonger la durée du travail, mais il y a beaucoup de Français qui rêveraient de travailler jusqu'à même 63 ans, 64 ans, mais ils sont licenciés à 49 ans ou à 55 ans. Et ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire baisse des prestations. Le problème des retraites, et nous le disons à Debout la France depuis des années, c'est le problème de la création d'emplois et de la relocalisation des emplois. Il faut relocaliser 1 million d'emplois pour payer nos retraites. Ça veut dire, et on en vient à l'Europe, que si on ne change pas la concurrence déloyale, que si on ne met pas un protectionnisme européen, que si on ne baisse pas les charges de nos PME, c'est-à-dire si on ne change pas radicalement la politique économique et sociale de notre pays, lutter contre les gaspillages, baisser les charges des PME, rétablir la concurrence loyale, vous passerez votre vie à allonger la durée du travail à la retraite, mais qui est une durée de chômage.
Et supprimer un jour férié ?
Je ne vois pas l'utilité, alors que on peut tout à fait s'en sortir avec des mesures d'économie, encore une fois,
ça va pas dans
on
sens
gaspille.
D'économie, justement.
Mais pourquoi on continuerait, madame, à accabler les Français alors qu'on gaspille l'argent public des Français ? Je préfère qu'on réduise la dotation à l'Union européenne, qui est passée de 2 milliards sous Jacques Chirac, net, 2 milliards, à 11 milliards, ça veut dire 9 milliards. Eh bien, avec ces 9 milliards, vous faites beaucoup de choses. Plutôt que de subventionner nos concurrents qui prennent nos usines et qui envoient leurs travailleurs détachés voler l'emploi des Français. Donc je veux dire qu'il y a un moment, je préfère qu'on arrête de donner des prestations sociales aux étrangers qui arrivent sur notre sol, comme le fait l'Allemagne d'ailleurs, parce que j'estime qu'on doit travailler avant de recueillir des prestations sociales.
Donc, y compris pour les migrants, Nicolas Dupont-Aignan.
Bien sûr, qu'on
donc
doit réduire.
Quand
doit,
il vient dans notre pays.
Il y a deux choses. Les demandeurs d'asile. Régulièrement accepté, il est normal qu'il y ait une aide. Mais les demandeurs d'asile, contrôlés. En revanche, on dépense des milliards pour favoriser l'appel d'air social dans notre pays, ce que ne fait même pas l'Allemagne. L'Allemagne a fait venir des 1 500 000 migrants, leur donne 1 euro de l'heure en travaillant, et renvoie vers la France les migrants dont elle ne veut pas, qui vont prendre les prestations sociales. Là, il y a des milliards. La fraude à la carte vitale, des milliards. Donc avant de toujours taper sur la tête des Français modestes et moyens, des classes moyennes qui n'en peuvent plus, est-ce qu'il ne serait pas temps de lutter contre les gaspillages
Nicolas Dupont-Aignan,
et cet argent qui s'évapore et qui part à l'étranger.
On va en parler de l'Europe, mais juste sur ce point et sur les annonces qu'Emmanuel Macron doit faire donc désormais jeudi prochain, en vous entendant, vous n'en attendez rien et vous n'avez aucun satisfecit à lui décerner au vu de ce que vous avez entendu, et par exemple la suppression de l'ENA, dont vous êtes issu.
La suppression de l'ENA, bouc émissaire pratique. Vous savez, cette école a pris trop d'importance dans la vie politique. Pourquoi ? Parce que la volonté politique a laissé les technocrates gouverner. Mais vous pouvez supprimer l'ENA, ça fera peut-être plaisir à quelques personnes. Mais si en contrepartie...
Mais c'est une revendication des Gilets jaunes
Mais peut-être, mais monsieur, je ne suis pas le porte-parole des Gilets jaunes.
Non, mais comme vous en êtes proche et que vous avez
mais
relayé
j'ai soutenu,
leur revendication...
Alors attendez, soyons clairs, parce que je n'aime pas la maladie. J'ai soutenu les Gilets jaunes raisonnables qui ont mis sur la table la question du pouvoir d'achat. Vous avez vu le prix de l'essence ce matin ? Vous le connaissez, le prix de l'essence ? Il est des plus élevés encore. Il a réaugmenté. J'ai soutenu le mouvement originel qui parlait des vraies préoccupations des Français. Alors, je crois qu'il faut maintenant être clair et il faut arrêter l'amalgame. Les Gilets jaunes de départ, étaient des gens raisonnables qui ont parlé d'une chose simple, où va le pognon? Eh bien, moi, je vous dis que le pognon, il part dans des dépenses de folie et qu'en même temps, nos compatriotes ploient sur les impôts, les classes moyennes, les classes populaires, et il y a un manque de pouvoir d'achat et qu'il faut récompenser ceux qui travaillent.
Alors, juste,
et
nous
avons un plan
si
de la France très précis. Et c'est lié à la question européenne, et j'espère qu'on va l'aborder, car on ne réglera pas. On ne réglera pas. Et c'est là où Emmanuel Macron est pris dans un piège. Il n'arrive pas à sortir de cette crise des Gilets jaunes parce qu'il ne veut pas changer les règles du jeu européennes qui empêchent la France de redémarrer pour récompenser ceux qui
bossent. Mais juste une dernière question politique, Marion Mourlier.
Est-ce que justement les élections européennes doivent être la réponse politique? Est-ce que ces élections doivent être un référendum anti-Macron, selon vous?
Pas seulement. Deux choses. Je dis aux Gilets jaunes, et Benjamin Cauchy le dit souvent, il dit le temps des manifestations est fini, il faut aller aux urnes. Et je vais vous donner un exemple, et je le dis aux Français qui m'écoutent. Si 90% d'entre eux allaient voter, ce qui serait un rêve, dimanche 26 mai, la liste Emmanuel Macron tomberait en dessous de 10%. Et ça serait le meilleur service à rendre pour le pays, parce que cela obligerait le président de la République à changer radicalement de cap. Mais il ne s'agit pas simplement d'un référendum anti-Macron.
Dans ces cas-là, il doit dissoudre ou pas le président de la République?
On verra. Déjà,
certains, hier, même dans les défilés, réclamaient sa démission.
Écoutez, moi je suis respectueux des institutions.
D'accord.
Mais je pense qu'on ne peut pas manifester sur les ronds-points sous la pluie, sous le vent, l'hiver, passer des heures et ne pas prendre 10 minutes pour aller voter. Mais, madame, il n'y a pas que la contestation de Macron. Il y a savoir par quoi on remplace Macron. Et c'est là où l'élection européenne, c'est l'élection, le sondage, l'élection européenne est décisive, parce qu'il faut choisir le projet alternatif le plus solide. Et il y a l'embarras du choix. Et je dis aux Français qui m'écoutent, votez. Vous avez l'embarras du choix pour envoyer au Parlement européen des députés sérieux qui ont un programme et qui permettent, par exemple, vous savez que les députés européens votent le budget de l'Union européenne.
Mm-hmm. Est-ce que vous vous placez dans cette catégorie, européens, du poignant, quand vous dites député sérieux, est-ce que vous vous placez dans cette catégorie? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas trop joué l'outrance toutes ces dernières semaines?
Quelle
Parce qu'on voit que d'autres listes qui ont opté pour une stratégie plus sobre, avec moins de coups d'éclat, font dans les sondages de meilleurs scores que
vous. Oui, ça c'est la caricature.
Alors, quand
je
vous
avez
plaisanté sur les députés En Marche,
je vais vous
est-ce
dire.
Que ça... Bon,
écoutez, quand Mme Loiseau veut me claquer la figure parce que j'ose poser une question sur l'incendie de Notre-Dame, là, vous n'en parlez pas. Ce qui est clair, c'est que je gêne et que notre liste gêne. Et je vais vous dire pourquoi elle gêne. Parce que la liste Debout la France a un programme sérieux pour vraiment, complètement revoir le fonctionnement de l'Europe. Nous avons négocié avec 23 alliés européens. Et... tout le système politico-médiatique français veut nous enfermer dans cette élection européenne.
Mais alors comment vous expliquez que vous soyez passé de 8% à 4% dans les sondages?
Dans une compétition, veut nous enfermer dans une compétition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et je vais vous dire ce qu'ils veulent. Ils veulent réitérer le terrible duel du second tour pour empêcher les Français d'avoir une autre solution.
Second tour dans lequel vous souteniez Marine Le Pen.
Mais je l'assume. Et je ne le regrette en rien.
Mais alors en quoi est la différence essentielle que vous avez avec Marine Le Pen aujourd'hui pour les européennes?
Monsieur Bellamy.
Oui.
Et monsieur Vauquier.
Tête de liste des Républicains.
Ont soutenu monsieur Macron. Sans négocier comme moi un programme. Ils ont mis un quart d'heure à soutenir monsieur Macron.
Pour faire barrage au Front National,
voilà.
Au Rassemblement
moi,
National.
Moi j'ai voulu faire barrage à monsieur Macron. Est-ce qu'on pose la question toute la journée à monsieur Bellamy de savoir pourquoi il ne fait pas liste commune avec madame Loiseau? Pourtant il vote exactement la même chose au Parlement européen. Monsieur Bellamy appartient au PPE, Parti fédéraliste. Ils ont voté Marrakech, ils ont voté l'extension
de
la Serbie.
Entre
ils ont voté.
Attendez.
Ils ont voté les Républicains au Parlement européen. Ont voté tous les textes fédéralistes. Et même Monsieur Bellamy a dit, ça vous pouvez retrouver, vous n'êtes pas une. Il a dit, je préférerais toujours l'Europe de Juncker à l'Europe d'Orban. Donc c'est clair. Monsieur Bellamy et Monsieur Macron. Et Mme Loiseau, en fait, sont très proches au Parlement européen.
Mais est-ce qu'il n'est pas en train de grappiller sur votre électorat,
et pourtant,
François-Xavier Bellamy?
Ça, c'est ce que dit le Figaro pour alimenter la feuilleton.
Alors,
le
les sondages pour vous ne comptent pas quand on vous voit passer de 8 à
4
% pour vous, il n'y a pas une dynamique
vous,
négative.
Et je vais vous dire, quand vous tient un sondage à 6,5 ou à 7, vous ne le sortez jamais. Vous sortez celui à 4. Moi, je laisse les Français libres. Je sais que les sondages m'ont toujours sous-estimé. Vous me disiez la même chose au Figaro, à la présidentielle. J'avais des sondages à 1%, je m'en souviens très bien, et le Figaro titrait « Sondage à 1%, le pauvre Dupont-Aignan va jamais y arriver ».
C'est pas aussi parce
et nous
que...
sommes sortis oui. à près
Alors,
de 5%.
Mais est-ce que c'est Donc, pas aussi parce que vous dites que vous quitterez, que votre mandat européen, si jamais vous êtes élu, eh bien vous n'irez pas jusqu'au bout.
Pourquoi vous dites ça?
Bah, c'est ce que vous avez dit, vous avez laissé entendre.
J'ai jamais dit ça.
Alors, vous irez jusqu'au bout de votre mandat européen si vous êtes
mais,
élu.
D'accord.
Nicolas Dupont-Aignan, c'est important de le dire.
Je la question, vous avez devant les Français, jusqu'en 2022 du moins, j'irai, et puis peut-être plus tard s'il n'y a pas d'autres élections.
Donc jusqu'en 2022. Parce que ça veut dire, on se demande si vous n'avez pas d'autres ambitions, et notamment présidentielles, plutôt qu'européennes.
Vous devriez vous féliciter qu'un parti politique français envoie son chef à Strasbourg, parce que l'Europe est en plein trouble. Nous avons négocié avec 23 pays. L'enjeu, ce n'est pas une élection française, c'est de faire effet de levier pour réussir à remplacer l'Union européenne par une Europe des nations et des projets. Et je suis le seul, justement, chef de parti qui a le courage de quitter l'Assemblée nationale pour aller là-bas. Bah, au lieu de m'en vouloir, vous devriez vous en féliciter.
Nous, on vous
en
puisqu'en général, vous pose des questions, Nicolas.
En général, les partis politiques envoient des personnes qui ont été battues au suffrage universel. Mmh. Et vous savez que le problème de la France à Strasbourg, c'est qu'on n'envoie pas des personnalités capables de créer des liens avec d'autres partis pour peser à Strasbourg. Moi, ce qui m'intéresse, je suis désolé de vous le dire, c'est pas le petit marigot français. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à bloquer le budget de l'Union européenne, limiter les pouvoirs de la Commission, bâtir des coopérations scientifiques pour faire face à la Chine, c'est-à-dire modifier vraiment le fonctionnement de l'Union européenne. Alors sortons de la politique aïrie et essayons de dire aux Français, on peut revoir de fond en comble l'Union européenne pour qu'elle serve la France. Car c'est ça l'enjeu. Vous ne remontrez pas le pouvoir d'achat des Français si vous ne revoyez pas les règles de l'Union européenne. Et à Debout la France, nous avons un projet, nous avons une liste avec des gens de talent, et nous avons 23 alliés, ce qui ne s'est jamais vu dans la politique française, un souverainiste qui négocie avec 23
partis. Les Français ont encore 5 semaines pour se faire leur opinion, c'est tout de suite l'heure de Question Nette.
Le grand jury, Question Nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour madame.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Alors, on a eu énormément de réactions en direct sur le Facebook Live et les internautes ne sont pas tous acquis à votre cause, quand même, il faut le souligner.
Parce que sinon,
souligner.
Ça voudrait dire qu'on est à 100%, ce qui est difficile.
Et l'autre sujet du jour qu'il critique, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est arrivé au Touquet hier soir et le président de la République effectue une visite privée pour le week-end pascal. Et dans les commentaires qui nous remontent sur RTL.fr, on a par exemple cet internaute qui s'appelle « C'était mieux avant » qui écrit « Le voilà encore reparti en week-end, il s'en étonne » et Roger lui qui préfère le voir à l'Élysée au travail plutôt qu'en vacances. Est-ce qu'Emmanuel Macron a droit à une vie privée? Est-ce qu'au final, ce n'est jamais le bon moment pour prendre quelques jours?
Mais écoutez, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de savoir si on est bien gouverné. On n'a jamais été aussi mal gouverné depuis bien longtemps. On a un président de la République qui joue avec les Français, qui les divise, qui ne prend pas les mesures qui s'imposent pour cesser, par exemple, les délocalisations à outrance que j'ai vues dans la Sarthe, allez-y, voir ces dizaines d'entreprises qui ferment partout, rien ne change. Alors, le président de la République joue avec les Français, et les Français n'en peuvent plus. Mais l'enjeu n'est plus là. L'enjeu est que les Français se mobilisent pour préparer l'alternative qui sauvera le pays. Et sauver le pays, cela veut dire avoir un bon diagnostic, et surtout avoir un bon projet. Et je dis à Roger, je ne sais plus comment il s'appelle.
Exactement.
Qu'il aille voter le dimanche 26, car si 90% des Français vont voter et bouleversent les sondages, les petits commentaires, la petite politique aérie française qui est en train de tuer le pays, eh bien, je peux vous dire que ça ira mieux. Donc, moi, je dis à tous les Rogers de la Terre qui nous écoutent ce matin, le 26, vous avez un bulletin de vote, utilisez-le. Vous pouvez bouleverser le jeu politique.
Nicolas
N'écoutez
Dupont-Aignan.
Ni les sondages, ni les journalistes, ni l'état
entend.
D'esprit ambiant.
Je vous interromps parce qu'il y a des attentats au Sri Lanka. Vous avez évoqué en début une huitième explosion. Hein. 3 policiers ont été tués. Est-ce que vous y voyez là aussi un acte christianophobe? Vous nous parliez de Notre-Dame. Est-ce que vous faites le lien, par exemple, éventuellement entre ces deux...
Parce que pour vous, l'attentat du Sri Lanka n'est pas christianophobe?
Alors, mais je vous pose la question. Est-ce que vous dites que
évidence.
Ça peut être aussi... Vous parliez de christianophobie en début d'émission, ça nous a interpellés. Est-ce que vous faites le lien ?
Je pense que les Français, du moins les dirigeants français, font la politique de l'autruche dans notre pays. Que ça fait des années qu'il y a des actes antisémites scandaleux, des actes homophobes, des actes d'une violence inouïe contre les chrétiens. que la société française est complètement, veut pas voir les périls. Et qu'à force de pas voir les périls, comme dans l'entre-deux-guerres, il y a un moment où un nouveau fascisme arrive. Et que ce fascisme islamiste intégriste, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec les musulmans paisibles qui vivent dans notre pays, car ne confondons pas tout, il faudrait peut-être lutter. Quand il y a 120 mosquées salafistes en France,
Je pense qu'il est temps d'agir. Merci voilà. Nicolas Dupont-Aignan, c'était votre grand jury. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Benoît Hamon, chef de file de Génération. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Pour cette seconde partie dans cette émission spéciale élection européenne, nous recevons donc Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et toujours à mes côtés donc Marion Monk du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose la première question de ce grand jury.
Il y a quelques instants, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan était à votre place. Il a évoqué la christianophobie qui touche les chrétiens en France. Il a exprimé cette semaine des doutes sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame. Et il faisait le lien avec ce que l'on voit aujourd'hui au Sri Lanka, cet attentat multiple qui vise en particulier des chrétiens. À ses yeux, on minimise en France le risque que des chrétiens soient visés. Il parle du fascisme islamiste. Est-ce que l'on minimise les risques en France de votre point de vue, Benoît?
Benoît Hamon.
D'abord, permettez-moi d'exprimer une pensée à l'égard des victimes de cette tragédie. C'est une tragédie pour le Sri Lanka, pour la population sri-lankaise, pour les fidèles réunis dans les églises, pour les personnes qui se trouvaient dans ces hôtels, dans ce qui apparaît un attentat coordonné, méticuleusement organisé. Et j'ai d'abord une pensée pour eux et évidemment pour toutes celles et ceux qui fêtaient lors de la messe de Pâques leur religion, un moment important dans la religion catholique, et qui sont morts. La faute à quoi ? À l'obscurantisme. Il y a un obscurantisme qui frappe partout. Et notre pays n'est pas étranger à l'existence de cet obscurantisme-là. Et la question qui se pose, confrontée à cette montée, cette vague d'obscurantistes, quelle qu'en soit l'origine, et quelle que soit la religion parfois qui la porte, c'est de savoir comment le camp de la raison, celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, à la liberté des citoyens, comment s'organisent-ils ? Et il me semble que le réflexe ne doit pas être d'essayer de faire prospérer le malheur. Moi, je ne veux pas tirer des dividendes politiques de ce malheur-là.
Vous dites ça pour Nicolas Dupont-Aignan.
Mais je pense qu'il y a des liens, quand on n'est pas capable de les faire, on ne les fait pas. Oui, il y a aujourd'hui en France de la haine des chrétiens, de la haine des juifs, de la haine des musulmans, de la haine en général des homosexuels qui montent. La question est, est-ce que de cette haine, qu'on la regarde, on s'en repaît quelque part et on essaye de faire de la politique là-dessus, ou est-ce qu'on essaye de construire au contraire des réponses politiques qui sont de nature à remettre de la paix ? Marion, et moi, je m'attache à remettre de la fraternité et de la paix plutôt qu'à essayer de faire des liens qui me semblent être un peu hasardeux, notamment entre ce qui s'est passé à Notre-Dame et ce qui se passe ce week-end au Sri Lanka.
Marion, vous parlez de la haine contre les chrétiens. Est-ce que justement, quand vous entendez le gilet jaune Jérôme Rodriguez parler d'un malheureux incendie dans une cathédrale, est-ce que cette haine contre les chrétiens est minimisée ?
Non, bah alors, permettez-moi de dire un mot de ce qui s'est passé pour Notre-Dame. Notre-Dame, on a observé une immense communion des Français. Alors pourquoi essayer de gâcher cela ? Quelle que soit leur religion d'ailleurs, le fait qu'ils en aient une religion ou pas. Et cette communion spontanée, naturelle, elle s'est faite autour d'un monument, qui est un monument qui a traversé les siècles, avec lesquels on a tous un bout d'histoire personnelle. Et aujourd'hui, on voudrait faire de la politique sur le dos de Notre-Dame. Moi, je n'en ferai pas. Je l'ai dit, je pense que...
Est-ce que certains en ont fait, Benoît Hamon ? Il y a ce matin, dans les journées de dimanche, on en parle en première partie, le député LR Éric Ciotti qui dénonce de la part du président de la République, une récupération politicienne indécente. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là de la part du président de la République ?
Non. En règle générale, non. Je dis simplement, la chose qui m'a frappé, c'est la suivante, c'est que finalement, il y a une forme de compétition narcissique qui a commencé après l'incendie de Notre-Dame, à qui reconstruirait le plus vite, à qui attacherait son nom, à un projet architectural, à qui donnerait le plus d'argent. Et je ne reproche ni aux uns ni aux autres d'avoir essayé de proposer des solutions. Je ne suis ni architecte, ni capable de vous dire en combien de temps on peut reconstruire Notre-Dame. Je pense simplement qu'il faut se dire que vis-à-vis d'un monument comme celui-là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, respecter nos traditions, notre histoire, et se projeter vers l'avenir sans essayer d'y attacher une réponse personnelle ou une volonté narcissique d'associer son nom à la reconstruction
de
Notre-Dame.
Donc le président de la République a bien fait de repousser les annonces, vous validez ce choix.
Quelles annonces?
Les annonces qu'il doit faire à l'issue, pour l'issue du grand débat. Bon, il devait le faire lundi, ce sera jeudi. Parce que certains font le... Enfin, on a entendu aussi des protestations disant bon, c'était peut-être pas nécessaire d'attendre aussi longtemps, 10 jours, pour parler aux Français. Est-ce que vous trouvez...
Écoutez,
que...
Écoutez, moi, je pense qu'il n'avait pas le choix, donc on ne va pas raconter d'histoire. Il n'a rien choisi du tout. Notre-Dame commandait l'agenda politique et à partir de là, il a repoussé cette annonce. Maintenant, parlons-en des annonces, parce qu'il
en
a
distillé
quelques-unes et je ne crois pas qu'elles soient de nature à répondre à la crise sociale.
On va les détailler dans un instant. Juste un petit mot sur la polémique qui est née cette semaine à propos des dons. Est-ce qu'il y a des dons d'ultra riches, de milliardaires qui vous paraissent devoir être contestés, challengés ou ne pas être défiscalisés?
Non, non, non. Moi, je suis très... je veux dire les choses comme elles sont. D'abord, un, que montre cet incendie? D'abord, qu'il y a de l'argent. Deux, ce sont des dons privés qui viennent aujourd'hui au secours d'un État défaillant. Et moi, je ne reproche pas aux riches de donner. Et c'est très bien qu'ils donnent. La réalité, c'est que si notre avenir dépend de la générosité des riches, d'abord, je rappelle que la générosité, ils décident d'où où ils la destinent. C'est eux qui font le choix de donner à Notre-Dame et de ne pas donner aux sans-abri.
Donc nous
ne
pouvons pas...
Non,
pas.
Mais on ne peut pas être dépendant, nous, de cela. Ce que révèle aujourd'hui le fait qu'on soit dépendant de ces dons, c'est que l'État, la puissance publique, n'est plus à même de jouer son rôle. Et c'est bien cela, moi, qui me pose problème. Et c'est valable tant sur la politique du patrimoine et de la culture. Aujourd'hui, l'État seul ne serait pas parvenu, probablement, à répondre aux enjeux financiers de la reconstruction de Notre-Dame. Mais on devrait aussi le signaler sur la question des pompiers et de la sécurité civile. On se félicite du rôle des pompiers. Savez-vous que cette année, 200 pompiers professionnels verront leur métier disparaître? Il y en aura 200 en moins, qu'on a fermé 3 400 casernes en 20 ans, qu'il y a moins de pompiers volontaires et 20% d'intervention en plus. La réalité aussi, c'est que les pompiers, comme les hôpitaux publics, font l'objet d'une politique de cure d'amaigrissement, de rétrécissement des moyens qui y sont affectés. Alors on peut toujours louer le travail des pompiers. Aujourd'hui, la puissance publique organise la fragilité des casernes et donc met en danger nos édifices, mais aussi les vies.
Alors, sur les annonces, Marion Mourgue.
On a eu quelques fuites sur les annonces. Est-ce que quand vous entendez ce que le président aurait pu annoncer et ce qu'il va sûrement annoncer jeudi, ça va dans le bon sens pour vous? Notamment, vous parliez des services publics, il y aurait un moratoire dans les écoles et les hôpitaux. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant?
Bon, écoutez, moi, je ne vais pas picorer ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. La réalité, c'est est-ce que c'est à la hauteur de ce dont on a besoin? Hôpital public. Il dit moratoire sur les fermetures des maternités. Savez-vous quel est le plan du gouvernement? Il prévoit 1,2 milliard d'euros sur 4 ans de compression de la masse salariale. Donc des centaines de postes en moins. Vous pouvez ne pas fermer une maternité, je m'en réjouis. Si vous n'augmentez pas les moyens qui sont affectés à la santé publique, à l'hôpital public, demain nous aurons des catastrophes sanitaires dans ce pays. C'est la réalité de nos services d'urgence, c'est la réalité de l'hôpital public. Tandis qu'il dit... Je fais un moratoire sur la fermeture des maternités. Il ne remet pas en cause 1,2 milliard d'euros de dépenses en moins de personnel dans les 4 ans. Vous rendez-vous compte
vous
de la conséquence?
Vous parliez d'enfumage dans ces annonces?
Mais ce n'est pas d'enfumage dont je parle. Je n'ai pas envie de parler comme ça. Je pense aujourd'hui que ça n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour l'hôpital public.
Mais est-ce que tout est à jeter, Benoît Hamon? Mais quand même, il y a une baisse des impôts des classes moyennes. Et puis également, la réindexation.
Mais laissez-moi terminer sur ce point. Parce que c'était très important. Il y avait l'école et l'hôpital. Mais on ne peut pas se contenter de cela et regarder l'hôpital public s'effondrer. C'est aussi simple que ça. La question des conditions de travail des personnels est en jeu. Si on avait reconnu le burn-out comme maladie professionnelle, ce que je proposais, nous n'aurions pas autant de séries suicidaires probablement dans les grandes administrations publiques. C'est valable pour la police nationale, c'est valable pour l'hôpital public, c'est valable pour les écoles. Nous sommes aujourd'hui dans des administrations où, au bord de la crise de nerfs, parce qu'il y a une perte de sens et que les conditions de travail y sont très difficiles. Et moi, je suis attaché aux conditions de travail des salariés du secteur privé comme des agents publics. C'est la raison pour laquelle j'insiste.
Vous dites qu'il n'y a pas tout, mais il y a peut-être un début.
Mais c'est tellement peu. Pardon de le dire, c'est tellement peu. Prenons la question sociale. Le grand tabou des 20, sinon des 30 dernières années, c'est la question des salaires. Est-ce qu'on est aujourd'hui payé autant qu'on le devrait?
Mais on vit des baisses d'impôts pour les classes moyennes.
Mais ce n'est pas seulement une baisse d'impôts. Si vous avez une baisse d'impôts, ça fera moins de recettes fiscales. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Et qu'en l'occurrence, il ne propose pas une baisse de la TVA que tous les Français payent. Il ne propose pas une baisse de la CSG. Il propose seulement la baisse de l'impôt sur le revenu.
Faut pas
moi,
le faire.
Je dis, le sujet, ce n'est pas l'impôt sur le revenu.
Sur les
mais je suis
moyennes.
Favorable à ce qu'il soit plus progressif aujourd'hui qu'il ne l'est. Et je suis favorable à une baisse des impôts payés au premier euro par vous ou par tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est-à-dire la TVA, notamment sur les produits bio, sur les produits de première nécessité. Voilà qui serait utile à la transformation de notre modèle agricole et à l'accès à des biens de première nécessité. Mais je le redis, la question centrale, ce sont les salaires. Et nous avons là un gros désaccord avec Emmanuel Macron, qui a trouvé à être caractérisé par la prise de parole de sa tête de liste aux européennes. Elle propose, rien de moins, de créer un SMIC européen qui serait équivalent en France, si on prenait la cible proposée par Mme Loiseau, à 880 euros. Puisqu'elle dit le salaire minimum européen
elle
doit être...
Elle vous a répondu que c'était une fake news, qu'elle n'entend pas.
Mais c'est pas une fake news. Non, non, mais attendez, attendez, mais je vais aller au bout. Mais arrêtez de ces histoires de fake news. Elle propose une cible à 50% de ce qu'on appelle le salaire médian. En France, ce serait 880 euros. Ce serait une cible. Ah, elle dit pas on va baisser le SMIC, je lui reconnais ça. Mais c'est
elle
ce qu'elle dit...
Dans les pays où
laissez-moi terminer. Elle dit c'est le salaire minimum acceptable en Europe. Le Parlement européen, et je le montre du doigt, grâce à une initiative de Guillaume Ballas, candidat sur ma liste, a voté le Parlement européen. C'est pas rien un vote du Parlement européen. Pour un salaire minimum européen à 60% du salaire moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, ce serait 1350 euros. Qu'est-ce que ça change? Ça change que nous, nous montrons une cible où tout le monde pourrait élever les standards sociaux, où on pourrait améliorer la condition de tous. Mais à partir du moment où Mme Loiseau propose comme cible un si petit salaire minimum, que va-t-il se passer? Vous aurez, vous donnez un argument au patronat européen qu'il exige déjà au patronat français pour dire mais si vous jugez acceptable qu'en Europe le salaire soit si bas, pourquoi est-ce qu'il est si haut dans notre pays? Et qui gagnera à la fin? Peut-on faire confiance à ceux qui ont fait les ordonnances travail, facilité le licenciement, remis en cause des indemnités prud'hommes pour ne pas céder au patronat le jour où il demandera la baisse du salaire minimum? N'y a-t-il pas dans la majorité actuelle des gens qui le demandent déjà, la baisse
alors,
du salaire minimum?
Question de Marion
Donc
Morgue.
Oui,
Benoît Hamon.
Je pense que ce débat entre La République En Marche et nous, sur le niveau du salaire minimum, est fondamental. C'est un des enjeux de la prochaine élection européenne.
Donc justement, vous attendez que les Français sanctionnent la politique d'Emmanuel Macron via les européennes et les transforment en sorte de référendum anti ou pro-Macron?
Non, j'attends qu'ils votent pour une augmentation des salaires plutôt que la baisse, tout simplement. Et nous, nous incarnons aujourd'hui une voix à gauche écologiste qui, à la fois... pense le progrès social et le pense à l'aune du dérèglement climatique. Ça veut dire que nous incarnons une voie politique très différente. Vous me demandez de sanctionner Emmanuel Macron. Évidemment que je pense qu'il faut qu'il soit sanctionné.
Une voie politique extrêmement minoritaire aujourd'hui. On l'entend dans les sondages, celui que nous allons révéler ce soir montre que vous êtes à 3%. Est-ce que vous ne vous dites pas que sans alliance, il est impossible pour vous de faire prospérer vos idées? Est-ce que vous êtes sûr que le 3 mai, date de dépôt limite des candidatures pour les élections européennes, vous serez sur la ligne de départ?
Mais vous en avez la certitude
aujourd'hui?
Je vais vous le répéter 10 fois. Oui, il y aura un bulletin de vote Génération Printemps Européen avec lequel les citoyens de gauche et écologistes pourront choisir la voie qui leur permettra au Parlement européen de changer les règles du jeu. Mais sans alliance, nous avons déjà des alliés au niveau européen, nous avons déjà des alliés en France. La question, la gauche, elle se transforme. Elle se transforme depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années. Et moi, j'appelle les électeurs de gauche, socialistes, humanistes, écologistes, à persister dans cette voie. C'est-à-dire à préférer aux vieux partis faibles les idées fortes et les valeurs fortes. Quelle est la particularité de la liste que je porte? C'est que oui, nous sommes déjà, nous, à l'heure de la synthèse entre la tradition de l'écologie politique et celle socialiste de la justice sociale. Nous sommes à l'heure de ce qui doit être demain le projet d'une Europe qui n'est pas, structurée par des vieilles familles politiques obsolètes, mais qui, dans la clarté, choisit le changement de modèle de développement, la transition écologique et la justice sociale. Ça, c'est ma formation politique.
Raphaël Glucksmann, au débat où vous étiez tous ensemble, 12 sur le plateau, a expliqué que l'histoire vous jugerait, parce que justement, vous êtes tellement divisés que vous êtes tous à moins de 10%. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut vous allier pour essayer d'exister?
Et aujourd'hui, dit-il, je cite, il est invité sur une autre émission politique, et il qualifie la gauche de videur de boîte de nuit, dont vous serez notamment l'un des artisans.
Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je ne vais pas tellement en boîte de nuit. Je veux simplement dire qu'il faut de la clarté. Au début de la semaine, des parlementaires français, dont des parlementaires de génération, ont signé une tribune en disant qu'on ne peut pas exporter des armes n'importe comment quand ces armes tuent des civils au Yémen. C'était remarquable, la gauche, elle s'est retrouvée tout entière. Et au milieu de la semaine, au Parlement européen, sachez-le, les députés socialistes français ont voté contre des règles éthiques en matière d'exportation d'armes. On ne peut pas être, je le dis à Raphaël, et à tous ceux qui aujourd'hui veulent la clarté, on ne peut pas être anti-libéral à Paris et libéral au Parlement européen, on ne peut pas être favorable à des restrictions aux exportations d'armes à Paris et favorable à ce qu'il n'y en ait plus au niveau européen. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je reconnais la sincérité des uns et des autres. Je ne mets pas ça en doute. Mais il faut de la clarté vis-à-vis des citoyens français. De quoi a souffert la gauche et les écologistes? D'avoir des campagnes qui étaient des campagnes enthousiasmantes et derrière, une exécution des programmes politiques qui étaient pauvres, décevantes, qui étaient bien en deçà des promesses qui avaient été faites. Moi, je dis qu'il faut avoir des idées fortes et des valeurs fortes, et que la gauche ne se reconstruira pas différemment. Donc, oui, j'assume, et c'est pour ça que je m'adresse aux électeurs socialistes, aux électeurs écologistes, oui, j'assume la clarté. La clarté Adrien de défendre Charme. Les services publics avec la même énergie et à Bruxelles. La clarté de défendre les salaires justement, ici et à Bruxelles.
La gauche, c'est celle qui a fait, par exemple, la semaine de congés payés supplémentaires, les 35 heures. Est-ce que la gauche, ça peut être demain, une gauche qui assume de dire oui, il faut travailler davantage, on vit plus longtemps, il faut repousser l'âge de départ à la retraite, il faut supprimer un jour férié. Est-ce que c'est un horizon qui est envisageable?
Mais c'est un contresens historique. C'est un contresens historique. L'humanité a l'opportunité de travailler moins pour produire tout ce dont elle a besoin. On s'épanouit par le travail, parfois, pas tout le temps. Ils sont nombreux,
donc
ceux qui aujourd'hui...
Donc il faut travailler moins. Est-ce que vous pensez
mais
qu'il
oui,
faut
mais on travaille déjà moins. Mais pourquoi
est-ce
que vous croyez qu'il y a 5 millions de chômeurs? Expliquez-moi ça.
Mais est-ce que ça a marché, les 35 heures, pour réduire le chômage?
Mais évidemment que ça a marché, c'est prouvé. Pourquoi est-ce qu'on passe sous silence le fait qu'il a été démontré que les 35 heures ont créé 500 000 emplois? Mais allons au-delà. Oui, je pense que nous travaillerons moins.
Combien?
Nous travaillerons moins, mais déjà on travaille
quelle
moins.
Est votre idée?
Mais, monsieur Sportouche, deux secondes, vous avez aujourd'hui un chômage avec 5 millions de personnes. Ceux qui veulent qu'on travaille plus, c'est-à-dire que ceux qui ont un travail travaillent plus, bon, sont à contresens de ce qui se passe. J'y ajoute qu'il y a une révolution numérique, vous le voyez vous-même dans vos propres environnements de travail. Grâce à la machine, grâce aux robots, grâce aux algorithmes, on peut travailler moins. Comment transforme-t-on donc nos mécanismes de solidarité, nos emplois, notre protection sociale, pour que cette révolution numérique ne se fasse pas au prix d'un plus grand malheur pour des millions de Français? Eh bien, moi, je considère que sur la question des systèmes de protection sociale, des retraites, il faut imaginer un financement différent. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que, demain, les entreprises ne soient plus mises à contribution pour financer les retraites en fonction du nombre de salariés qu'elles ont, mais en fonction de la richesse qu'elles créent. Cela permettrait de pérenniser nos financements plutôt
que de se tourner... Mais est-ce que ça doit se faire au niveau européen, justement? Est-ce que la durée de travail devrait être limitée, vous pensez, au niveau européen?
Eh bien, écoutez, il y a encore eu un rapport du Parlement européen sur les harmonisations des systèmes de protection sociale qui vient d'être rejeté, encore par des voix qui étaient des voix venues de la gauche. C'est-à-dire que c'est quand même curieux, quand il y a des progrès possibles, ces progrès sont rejetés par des majorités de droite et un peu de gauche, avec beaucoup de libéraux, qui empêchent toute forme d'harmonisation sociale. Moi, j'y crois. Je vais vous dire. Et d'ailleurs, je prends au sérieux l'élection européenne. Ce qui me frappe, d'un mot, c'est que dans cette élection européenne, beaucoup de ceux qui sont tête de liste parlent comme s'ils étaient candidats à la présidentielle. Écoutez, Emmanuel Macron, a priori, sera président de la République encore 3 ans, et le rôle de la France en Europe, c'est pas nous qui en déciderons. Ce dont on peut décider, ce sont des majorités qui peuvent, au Parlement européen, changer
vous,
certaines politiques.
Vous serez député européen jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, je l'ai déjà dit.
Donc, c'est la raison pour laquelle,
au-delà de l'élection présidentielle, il n'y a pas de sujet là-dessus. La réponse que je veux donner à ça, c'est croit-on ou pas en la démocratie européenne? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Moi, je dis oui, et pourquoi? Parce que le Parlement européen est en codécision avec le Conseil. C'est-à-dire qu'il décide avec autant de force.
Mais
pourquoi
Benoît,
croyez-vous qu'il y a autant de lobbies
Marion,
au Parlement
européen?
Comment vous réussissez à vous faire entendre quand vous êtes à 3% dans les sondages, ce qui est le seuil pour réussir à
financer
la campagne et avoir un élu?
Puis 2 au primaire, je finis à 38. Je démarre très haut au présidentiel, je finis bas. Si on peut se dire une chose, c'est que vous l'observez, le débat européen n'a pas commencé. Et qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche attendent de savoir qui va proposer quoi.
Mais la campagne va être très courte.
Mais elle va être très courte. Et un électeur sur deux se décide dans les 15 derniers jours. C'est la raison pour laquelle j'ai une grande confiance. Et j'ai une grande confiance dans ce que je vois, de ce
mais
que me disent les Français sur le terrain.
Que les électeurs de gauche soient perdus quand ils voient autant de listes, ils se disent pourquoi plus
mais
de
Benjamin Sport, que est-ce que vous voulez bien contribuer à la clarté de ce débat en proposant,
mais
en posant des questions sur le fond?
Quand on lit votre langue, vous pourriez être une synthèse de cela. D'ailleurs, vous avez tendu la main pour une votation préférentielle qui ne s'est pas faite. Donc on a l'impression que vous pourriez être cette synthèse-là. Mais vous ne l'incarnez pas. Pourquoi, à votre tour, ne pas aller rejoindre celui qui est un peu plus en amont dans les sondages, et par exemple Yannick Jadot, avec lui que vous partagez
parce qu'ils ne le veulent
des convictions?
Pas. La question est simple. Vous me posez une question simple. Moi, j'y réponds simplement. Ils ne le veulent pas. À partir du moment
Raphaël
où ils
Glucksmann
ne veulent
le
pas...
Monsieur, Raphaël Glucksmann le souhaitait.
Écoutez, moi, je considère aujourd'hui que Raphaël Glucksmann, quelle que soit sa sincérité et la sympathie que je peux avoir pour lui, n'apporte aucune garantie de clarté sur ce qu'il fera. Nous ne savons pas où sa liste siégera.
Nous avons pas avec Parti Socialiste Européen.
Ah oui, qui veut, qui, alors on va au bout, le Parti Socialiste Européen qui prône, à travers sa figure centrale, l'alliance avec Macron. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on se dise opposé à des politiques libérales ici et qu'on vote pour des textes libéraux au Parlement européen. C'est la clarté. Il n'y aura plus de services publics, plus de protection sociale si on continue sur ce chemin-là.
Et les communistes ne sont pas clairs non plus ?
Mais si, ils sont. Mais je ne dis pas, c'est pas le sujet. Mais vous êtes en train de faire comme si la gauche était rattachée à des vieilles étiquettes.
Alors, essayez de comprendre ce qui vous différencie.
Bah, moi, je suis farouchement européen, fédéraliste, attaché à la construction européenne depuis ses débuts, mais je considère aujourd'hui que cette construction européenne est mise en danger par une majorité de droite et libérale. Cette majorité de droite et libérale, elle explique en grande partie le fait que l'on vive Bruxelles comme adversaire de nos intérêts. Elle a laissé prospérer les lobbies là où elle aurait dû faire vivre la démocratie. C'est contre cela que je me bats, et c'est la raison pour laquelle je soutiendrai, qui peut en dire autrement, avec clarté, un candidat à la présidence de la Commission européenne qui incarne justement la résistance au libéralisme et à l'austérité, Yanis Varoufakis.
On vous a entendu sur ce point.
L'ancien ministre grec des Finances.
C'est l'heure à nouveau de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Marie-Pierre Haddad.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Alors hier, pendant qu'il y avait la manifestation des Gilets jaunes, les internautes, eux, sur les réseaux sociaux, étaient scandalisés par cette vidéo qui a été prise, on en a parlé tout à l'heure, où on voit des Gilets jaunes qui crient « Suicidez-vous » à l'attention des policiers. Donc Frédéric, lui, il lance un message de soutien. Il dit « Je soutiens les forces de l'ordre » et il espère que ce sera repris. Et il y a beaucoup de messages comme ceux de Gérard, Daniel et Alain qui disent « Honte à vous, honte à ces Gilets jaunes ». Cette vidéo a été partagée des centaines de fois hier, mais vous n'avez pas réagi. Vous condamnez fermement ces propos ?
Mais je le condamne d'autant plus que les suicides dans la police, les suicides dans les hôpitaux, les suicides dans les administrations ou au travail...
Mais comment vous pouvez expliquer qu'on puisse entendre ça dans des défilés ?
Parce qu'on est à un niveau de colère, d'intolérance, de haine des uns des autres, qui justement devrait interroger le président de la République en premier. Quelle est sa responsabilité ? Il est de reconnaître aujourd'hui les pathologies psychiques au travail comme des maladies professionnelles. Le fait-il ? Non. Il est de reconnaître aujourd'hui que le métier de policier, d'infirmière, d'aide-soignant, de médecin à l'hôpital public sont des métiers exposés à ces risques psychosociaux et qu'il faudrait donc améliorer les conditions de travail de ces fonctionnaires. Le fait-il ? Non.
On entendait démission sur les défilés hier. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution politique ?
Mais c'est une question importante. Le suicide au travail, c'est aujourd'hui quand le travail vous broie et vous mutile à tel point que vous n'avez plus aucun sens à votre vie. Et moi, j'ai mis des propositions en débat. Depuis longtemps, reconnaissez que sur cette question, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, m'étais-je trompé ? Non.
Vous l'avez dit.
A-t-on avancé ? Alors, non. Mais c'est là où la réponse devrait être concrète. C'est-à-dire j'ai la même émotion que vous à voir ça. Mais est-ce qu'on attend de moi une émotion ou de mettre en débat des solutions ? Vous aurez un ministre de l'Intérieur qui va être très ému. Mais que fait-il pour améliorer les conditions de travail des policiers ? Que fait-il ? C'est sur ce terrain qu'il faut interroger le ministre de l'Intérieur et le président de la République, et pas seulement sur le registre de l'émotion. On est tous émus.
Oui, et cette dernière question, ça concerne la polémique de l'UNEF, dont l'une des membres du bureau syndicat a déclaré, concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris, que c'était un délire de petits blancs. Vous avez été membre de l'UNEF dans votre jeunesse, vous condamnez ces propos et vous estimez que c'est une dérive du syndicat ?
Ah, je pense que c'est une dérive de personne qui ne doit pas penser.
Elle doit être exclue du syndicat.
Le syndicat fait ce qu'il veut, mais moi, je vois pas. En tout cas, c'est pas plus absurde que cette remarque-là. Et j'ai aucune espèce, moi, de solidarité, même parce que j'étais membre de l'UNEF il y a 30 ans. L'UNEF, à mon époque, elle ressemblait pas du tout à ça.
Merci beaucoup.
On savait reconnaître où situer la vérité et les choses importantes.
Merci, Benoît Hamon, d'être venu sur le plateau du Grand Jury. Merci à tous les trois. Très belle semaine. Vous retrouvez la semaine prochaine Olivier Bost à cette même plage. À très vite.